Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Fukushima, de la catastrophe naturelle au désastre nucléaire. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami frappe le Japon. Cet enchaînement de catastrophes naturelles entraîne la perte de contrôle des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, au nord-est de l'archipel. Le désastre industriel est en marche, des rejets radioactifs s'échappent du site. Commence alors une course contre la montre pour limiter au maximum l'irradiation du territoire et de la population. Une course sans ligne d'arrivée, sans point final, puisque les conséquences d'un accident nucléaire s'étalent sur plusieurs années. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire dans un pays aussi développé que le Japon? Que nous dit-elle de l'énergie nucléaire, de ses risques potentiels et réels? Quelles sont les responsabilités du gouvernement japonais et de l'entreprise en charge de la centrale? Enfin, que deviennent ces territoires et surtout les hommes et les femmes qui y vivent? Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, médecin explorateur des pôles, l'une des grandes voix en France concernant le réchauffement climatique, très intéressé également par la question nucléaire et ses enjeux environnementaux. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Konnichiwa.
Juillet 2007, région de Niigata. Ce jour-là au Japon, la terre tremble.
Madame, monsieur, bonsoir. Au Japon, c'est un tremblement de terre extrêmement violent, près de 6,8 sur l'échelle de Richter, qui a causé la mort de 7 personnes. Il y aurait un millier de blessés et d'importants dégâts matériels.
Namazu, c'est le nom d'un poisson-chat mythique sur le dos duquel l'archipel nippon aurait été créé. Une image qui traduit la précarité du territoire japonais face aux éléments. L'eau, le feu, le vent, la terre, tous se déchaînent sur ce pays. Placé sur une zone de subduction où la plaque pacifique s'enfonce et glisse sous la plaque eurasiatique, le Japon est sujet à de fréquents séismes. C'est son talon d'Achille. 5000 secousses par an sur l'une des plus fortes densités de population au monde. Mais bon, avec le temps, les Japonais ont appris à vivre avec cette menace, un peu comme les Californiens et leur faille de San Andreas. Au Japon, les énormes séismes de 1923 à Kanto ou celui de 1995 à Kobe ont marqué les esprits. Mais les progrès techniques ont permis d'atténuer les dégâts matériels et donc humains. En ce 16 juillet 2007, des pertes humaines et des blessés. On se souvient aussi de ce qui retient l'attention des Japonais et des médias internationaux. C'est un autre problème.
La centrale nucléaire de Kashiwazaki est toujours à l'arrêt. Au lendemain du séisme, les responsables du site ont annoncé que les fuites radioactives étaient un peu plus importantes que prévues. 1200 litres d'eau contaminée rejetée dans la mer et des substances toxiques libérées dans l'atmosphère. Une communication tardive, des informations incomplètes. L'incendie dans cette centrale attise les craintes d'une population très sensible aux affaires nucléaires. La polémique est relancée sur des accidents étouffés par le passé.
Tout le paradoxe est là. Soumis à des risques naturels permanents, le Japon est le troisième plus grand producteur d'énergie nucléaire après les États-Unis et la France. Limité en ressources naturelles, il a bâti une partie de son indépendance énergétique sur l'atome. Plus de 55 réacteurs sont répartis sur l'archipel. Au cœur de ce secteur nucléaire, TEPCO, l'une des plus grandes entreprises du pays, quatrième producteur mondial d'électricité, gère la majorité des centrales, et notamment celle de Kashiwazaki. Après le séisme du 16 juillet 2007, TEPCO est sévèrement critiquée. Elle aurait sous-estimé la vulnérabilité de ses sites. L'avertissement provoque une réaction des autorités japonaises et de l'Agence nationale de sécurité industrielle et nucléaire. Un rapport est publié peu de temps après le séisme. Il montre que de nombreux incidents, dont certains critiques, ont été volontairement cachés par les différentes entreprises en charge du secteur. Face à l'indignation de la population, le gouvernement annonce une rénovation et un meilleur contrôle du parc nucléaire. Des réformes de sécurité sont mises en place et le seuil de résistance sismique des centrales est rehaussé. Pour autant, le développement du nucléaire est réaffirmé et poursuivi. Le séisme du 16 juillet 2007 et son incident nucléaire étaient un avertissement. 4 ans après, le Japon s'enfonce dans l'abîme.
Bienvenue dans le 12-13, bonjour à tous, un 12-13 dans lequel nous allons bien sûr largement revenir sur ce terrible séisme qui a frappé le Japon il y a quelques heures.
À Tokyo, la secousse principale est survenue de façon verticale. On a eu l'impression que l'immeuble s'arrachait du sol.
Ça secoue, tout s'effondre, c'est très dangereux.
Alors rappelons que ce tremblement de terre est le pire qu'ait connu le Japon, des images dignes d'un film de catastrophe.
Je pensais que j'étais en train de mourir. C'était énorme.
On voit les voitures dans la rue qui bougent. On a le plancher sous soi qui bouge, les vis qui tremblent.
Moi, j'étais coincée dans le métro à ce moment-là et les gens ont compris tout de suite que c'était pas une secousse normale qui a duré presque une minute. Le train était bloqué pendant plusieurs minutes avant qu'on arrive à nous faire sortir. La circulation est terrible, il n'y a plus aucun taxi, enfin, il n'y a plus que la marche à pied.
Vendredi 11 mars 2011, 14h46, heure locale. 2 minutes qui paraissent une éternité. 2 minutes où les notions de temps et d'espace disparaissent. 2 minutes où tout bascule. Ce jour-là, un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter secoue Honshu, l'île principale de l'archipel japonais. L'épicentre est situé à 130 km des côtes, dans l'océan Pacifique. Depuis que ce type de mesure existe, c'est le tremblement le plus puissant répertorié au Japon. L'île d'Honshu est déplacée de 2,50 m, l'axe de rotation de la Terre de 10 cm. La force du phénomène est incroyable. Au nord du pays, de nombreux bâtiments s'effondrent, d'autres se lézardent, de l'eau et de la boue remontent dans les rues, sur les routes et sur les chemins de fer qui sont tous coupés par endroits, des failles éventrent la Terre. Partout, ce sont des scènes de panique. Habitués et préparés aux secousses, les Japonais sont surpris par la puissance du séisme. À Tokyo, les systèmes de protection fonctionnent, et bien même. Impressionnant, oui, ce lent mouvement des buildings de plusieurs centaines de mètres qui penchent de droite à gauche. Ici, les immeubles vacillent, mais ne tombent pas. Au Parlement, au bureau, dans les maisons, au nord, à l'est, c'est près d'un tiers du pays qui tangue. La secousse s'arrête, pour un temps. Cette sirène, tous les Japonais la connaissent. 3 minutes après le tremblement de terre, l'alerte au raz-de-marée lancée. Les 670 km de la côte pacifique sont concernés. À Rekusen Takata, petit port de pêche situé au nord de l'île d'Honshu, dans la région de Tohoku, Futoshi Kudoba vient tout juste d'être élu maire. Il organise l'évacuation de ses concitoyens. Sa femme, elle, est au travail. Non loin de là, Masako Sugawara vient de dire au revoir à son mari, parti chercher ses 3 petites filles à l'école. Ici aussi, l'alarme retentit. Une trentaine de minutes plus tard, un tsunami avec des vagues successives de 3 à 40 mètres de haut s'abat sur Rikusen Takata, comme sur la côte orientale du pays. Un monstre d'eau s'écrase sur le rivage et des destins se brisent. Futoshi Toba ne reverra jamais sa femme, ni sa maison, emportée par les flots. Masako Sugawara s'est abrité sur la colline. Son mari et ses petites filles disparaissent sous les vagues. Les images ne disent pas ces vies qui s'effacent. Elles montrent en revanche la vitesse incroyable avec laquelle la masse énorme emporte tout sur son passage. Le tsunami s'engouffre dans les terres. On retrouve des bateaux à 2 kilomètres de la plage. Mais y a-t-il encore une plage? La ville de Sendai, plus d'1 million d'habitants, est dévastée. Alors le monde entier apprend le nom des villes martyrs, Minami Sanriku, Soma. Certaines ont disparu, peut-être pour toujours. Mais l'espoir, fébrile, renaît lorsqu'on voit sur les toits des drapeaux de fortune s'agiter au-dessus d'un hôpital portant l'inscription 300 comme le nombre de survivants. Une rescapée témoigne.
La vague nous a percutés. J'ai essayé de m'accrocher à ce que je pouvais. Je tenais la main de ma fille, mais je l'ai lâchée quand nous avons été projetés dans l'eau et les débris. Je ne sais pas où elle est. J'espère qu'elle est vivante quelque part.
Entre deux répliques du tremblement de terre, on prend la vraie mesure de la catastrophe. Scène d'apocalypse. À Tokyo, plus de 6 incendies sont déclarés. La raffinerie d'Ishihara, notamment à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, est en proie à de gigantesques flammes. À la télévision, les présentateurs de la chaîne nationale NHK portent des casques jaunes moutarde et ramassent les feuilles qui volent. Dans la capitale, baromètre du pays, il règne une étrange atmosphère. La ville, connue pour ses lumières qui brillent, sans discontinuer, est en partie plongée dans le noir. Les transports sont arrêtés, les magasins sont fermés. La mégapole éteinte symbolise l'inquiétude grandissante d'une grande partie de la population et des observateurs internationaux. Et un nom s'impose de plus en plus, il revient sans cesse, Fukushima. Là, sur le fond de mer, est installée la centrale de Daiichi. Construite dans les années 70-80, elle se compose de 6 réacteurs et alimente en électricité une grande partie de la capitale. Or, Fukushima Daiichi a subi de plein fouet le tremblement de terre et le tsunami. Il est aux premières loges. Ces réacteurs sont en partie immergés. Alors, les regards se tournent vers cette région située à environ 300 km au nord de Tokyo. Vu la violence de la catastrophe, tous les Japonais craignent ce qu'ils appellent un Tenpatsu Shinsai, un accident nucléaire provoqué par un tremblement de terre. De son côté, le premier ministre, Naoto Kan, qui a revêtu son uniforme gris des services d'urgence, tient une première conférence de presse.
À tous les Japonais, vous avez probablement déjà entendu à la télévision ou à la radio qu'à 14h46, un séisme de magnitude de 8,4 sur l'échelle de Richter a touché le Japon. Un séisme très puissant. Et j'offre toute ma sympathie aux victimes. En matière nucléaire, certaines centrales se sont arrêtées automatiquement. Mais aucune fuite radioactive n'a été décelée pour le moment. Maintenant, je demande au peuple japonais de rester calme et vigilant et de continuer à s'informer en écoutant la radio.
Face au désastre, le gouvernement japonais organise les secours et tente de rassurer la population, c'est son rôle. Des milliers de sauveteurs sont envoyés dans les régions sinistrées. L'armée japonaise est mobilisée. Elle est rapidement soutenue par des troupes américaines. Plus rapide encore que les autorités, la mafia japonaise, oui la mafia, vient en aide aux victimes. Quelques heures seulement après le raz-de-marée, le premier groupe criminel du Japon, Yamakushi Kumi, affrète des camions chargés de couvertures, de chaussures et de repas chauds. Il ouvre des bureaux de liaison partout à travers le pays pour aider à localiser les victimes. Mais malgré les affirmations du Premier ministre, la situation à Fukushima continue d'inquiéter les observateurs. En France, l'édition spéciale de France 2 interroge Karine Poupée, correspondante de l'AFP à Tokyo.
Karine Poupée, qu'en est-il des installations nucléaires? Sont-elles sous contrôle à l'heure actuelle?
Alors, les installations nucléaires situées le plus près des zones sinistrées se sont arrêtées automatiquement. C'est une première chose extrêmement rassurante. Ça veut dire que les systèmes d'arrêt automatique fonctionnent. Deuxième point, le départ de feu qui a été signalé dans l'une des centrales est un petit départ de feu. Ce n'est pas grave. Et il n'y a pas de fuite nucléaire décelée nulle part à l'heure actuelle.
Tout serait donc sous contrôle. Mais au fil du temps, les journalistes reçoivent des informations contradictoires. Autour de la centrale de Fukushima, dans un rayon de 2 km, 1800 personnes sont en train d'être évacuées. Puis on somme les riverains à 10 km à la ronde de rester cloîtrés chez eux. Alors, une quarantaine de minutes après sa première intervention, Karine Poupée revient sur la situation des centrales nucléaires.
Karine, est-ce que vous avez des précisions à nous apporter sur ces 2000 personnes qui ont été évacuées autour d'une centrale nucléaire?
Alors, sous réserve de confirmation de la part des autorités, il semblerait que les niveaux d'eau de refroidissement dans les installations aient atteint un niveau qui ne soit pas normal, de sorte que par précaution, vraisemblablement, on a demandé aux personnes alentour de partir. Voilà.
Karine, comment...
Je n'en sais pas plus pour le moment.
L'information est rapidement confirmée. Les autorités ont relevé un niveau de radioactivité effectivement très supérieur à la moyenne sur la centrale de Fukushima Daiichi. Alors, que se passe-t-il réellement sur ce site ? Les Japonais n'ont pas le temps de se relever de la terrible catastrophe qui s'est abattue sur eux, le tsunami, que la menace nucléaire approche à grands pas. Mars 2011, à 14h46, le séisme frappe les quatre centrales nucléaires situées sur la côte de la région de Tohoku. Il provoque immédiatement l'arrêt automatique des réacteurs en marche. À Fukushima Daiichi, seuls les réacteurs 1, 2 et 3 fonctionnent au moment du tremblement de terre. Les 4, 5 et 6 sont à l'arrêt. En revanche, le réseau électrique est détruit, des bâtiments sont endommagés et certains équipements sont mis hors service. 40 minutes après la secousse, le tsunami s'abat sur le site. Oh, il y a bien une digue, censée protéger la centrale, mais elle ne résiste pas à la vague de 14 mètres. Les générateurs de secours sont inondés. Or, ces pièces sont essentielles dans le dispositif de refroidissement du cœur des réacteurs. La situation est donc particulièrement grave, car même s'ils sont arrêtés, les réacteurs doivent impérativement être refroidis pour évacuer la chaleur et éviter la fusion. 2 heures et demie après l'impact du raz-de-marée, de la vapeur radioactive s'échappe du réacteur 1 de Fukushima Daiichi. La majeure partie des employés de la centrale sont évacués. Une petite équipe reste sur place pour essayer de reprendre le contrôle. Le 12 mars, lendemain du tsunami, à 6 heures du matin, la radioactivité dans les salles de contrôle est 1000 fois supérieure à la normale. La zone d'évacuation est agrandie. Elle est à présent de 10 km autour de Fukushima. Premières images d'hommes en tunique blanche, de transfert de personnes, de sas de décontamination, de distribution de pastilles d'iode 131 en prévention du cancer, de la thyroïde, tous les ingrédients du cauchemar nucléaire sont réunis. Pendant ce temps, les opérateurs restés sur place, bientôt baptisés équipe suicide, tentent tant bien que mal de réduire la pression dans l'enceinte du réacteur, mais rien n'y fait. À 15h36, heure locale, il est déjà trop tard.
Un nuage de vapeur, gigantesque. Une explosion vient de se produire dans la centrale nucléaire de Fukushima numéro 1. Le toit et les murs du bâtiment qui abrite le réacteur se sont effondrés, faisant 4 blessés légers, selon la télévision publique japonaise. Les autorités viennent d'étendre le périmètre d'évacuation à 20 km autour de la centrale nucléaire. Sur le site même de la centrale, la radioactivité, mesurée en une heure, correspond à la dose maximale qu'une personne peut absorber en un an. Scénario catastrophe, comparable à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Mais l'Agence de sécurité nucléaire et industrielle japonaise se veut rassurante et juge peu probable des dégâts sérieux sur le caisson du réacteur. Après le plus important tremblement de terre de son histoire, le Japon redoute désormais une catastrophe nucléaire.
Sur les écrans de télévision français, le logo change. Pour illustrer les éditions spéciales, la vague représentant le tsunami sous le drapeau japonais est remplacée par le sigle du nucléaire. La catastrophe change de nature. La panique gagne le pays et le monde entier. Le gouvernement de Tokyo essaie de rassurer la population. Le caisson du réacteur n'est pas endommagé. On parle d'incident nucléaire, pas encore d'un accident. Méthode Koué. Sans effet. Les supermarchés, les épiceries sont dévalisés. De nombreuses personnes fuient Tokyo. Certaines partent vers le sud du pays. Les expatriés quittent le Japon. Les journalistes reviennent sur les catastrophes nucléaires précédentes, celle de la centrale américaine de Three Mile Island en 1979 et surtout, Tchernobyl en 1986. On annonce des vents en direction de la capitale. L'inquiétude grandit. D'autant que la communication du gouvernement et de l'entreprise TEPCO ne rassure personne. En coulisses, c'est même la cacophonie. Le Premier ministre rappelle à l'ordre les dirigeants de la firme qui tardent à l'avertir sur la situation réelle de la centrale. Une vidéo publiée un an après la catastrophe témoigne de l'amateurisme des dirigeants de TEPCO face à la situation. Il s'agit de l'enregistrement des conversations entre les employés et les cadres au moment de l'explosion du réacteur numéro 1.
Quartier général. C'est terrible.
Oui, ici le quartier général.
On a un souci sur le site numéro 3. Vous avez compris?
Ok, il est 11h01. Je vais faire un rapport d'urgence.
Que dit le manuel de gestion des accidents sur l'évacuation lorsque le bâtiment de maintien de la pression est endommagé?
Désolé, je ne m'en souviens pas.
C'est terrible. Il faut résoudre ça maintenant. Mettez la main dessus et envoyez-le-moi par mail.
Après l'explosion, la direction de TEPCO décide d'injecter de l'eau de mer dans le réacteur pour le refroidir. Solution désespérée et risquée, car le sel, en trop grande quantité, peut à terme augmenter les risques. De son côté, le gouvernement étend la zone d'évacuation à 20 km autour de la centrale. Tragique réponse face à cet ennemi invisible qui guette. On fuit de plus en plus loin. Près de 200 000 personnes quittent les alentours de Fukushima. Elles s'ajoutent aux 450 000 évacués après le séisme. Le bilan humain s'alourdit de jour en jour. Le tsunami aurait fait presque 10 000 victimes et autant de disparus. Au nord, dans la région sinistrée, le froid et la neige ralentissent les secours et augmentent le nombre de décès. Le dimanche 13 mars, deux jours après le séisme, Naoto Kan, le Premier ministre, tient une nouvelle conférence de presse. Il doit se rendre à l'évidence, cet enchaînement de catastrophes et la menace nucléaire sont d'une ampleur exceptionnelle. Il termine son discours par ces mots lourds de sens. Le pays vit sa crise la plus grave depuis 1945. Surtout que le lendemain, à la centrale de Fukushima Daiichi, la catastrophe continue.
Vue du ciel, la centrale de Fukushima laisse découvrir ses nuages suspects, ses blessures. La situation s'est de nouveau détériorée hier soir. À 20h30 heure française, les autorités annoncent que le niveau de température a augmenté dans les réacteurs 5 et 6. Puis à 23h30, l'enceinte du confinement du réacteur numéro 2, la carapace, est endommagée par une explosion alors que les ingénieurs injectaient de l'eau pour compenser la panne du système de refroidissement. Le cœur du réacteur ne serait plus protégé.
Cette fois, le Japon demande officiellement l'aide des experts internationaux. La centrale de Fukushima se transforme en véritable cocotte minute. Les explosions se succèdent. Le 15 mars, nouvelle explosion dans le réacteur 2. Et en plus, un incendie se déclare dans le réacteur 4. Pendant ce temps, on constate la fusion partielle du réacteur 2, puis de la fumée se dégage du réacteur 3. On essaye alors une opération de refroidissement par hélicoptère. Mais l'augmentation de la radioactivité sur le site empêche toute intervention. Cette technique utilisée au moment de Tchernobyl renforce la comparaison. La situation est hors de contrôle, d'autant que les 50 de Fukushima, opérateurs restés sur place, sont aussi évacués. Sur le site, il ne reste plus personne. Les autorités semblent totalement dépassées par les événements, à tel point que le mercredi 16 mars 2011, 5 jours après la catastrophe, l'empereur Akihito prend la parole à la télé.
La situation dans les centrales nucléaires est extrêmement imprévisible. Et avec l'aide de ceux qui sont impliqués, j'espère de tout mon cœur que les choses ne vont pas empirer.
C'est la première fois depuis son accession au trône en 1989 que l'empereur s'adresse au peuple. Son discours rappelle celui de son père, Hirohito, lors de la sédition du Japon en 1945. Le pays est au bord du précipice, suspendu à cet unique impératif, refroidir coûte que coûte les réacteurs de Fukushima. Le 17 mars, 6 jours après le séisme, les hélicoptères parviennent enfin à survoler le site. Alors ils déversent des tonnes d'eau de mer au-dessus de la centrale. Dans cette bataille de l'eau que mènent les hommes contre leurs installations nucléaires, le rapport de force s'inverse. Les rejets radioactifs semblent diminuer. Des équipes de pompiers et de militaires sont renvoyées sur place pour arroser les réacteurs. Les employés de la centrale sont eux aussi de retour sur les lieux. Tous ces volontaires qui meurent dans le silence de la radiation seront bientôt appelés les kamikazes de Fukushima, malheureux successeurs des liquidateurs de Tchernobyl. Une centaine de militaires, de pompiers, d'employés de la centrale qui se relaient jour après jour afin d'enrayer la catastrophe nucléaire. Petit à petit, l'approvisionnement en électricité de la centrale est rétabli. Il permet la reprise en main partielle du refroidissement des réacteurs. La situation stagne. Les journalistes détournent de la centrale pour se concentrer maintenant sur les victimes du tsunami. En réalité, le 28 mars, 2 semaines après le séisme, les autorités japonaises expliquent que le risque d'une catastrophe nucléaire est loin d'être écarté. Les fuites radioactives sont encore nombreuses. D'autant qu'une inquiétude grandit. On réalise en effet que l'eau injectée est ensuite relâchée en pleine mer. Le porte-parole de l'entreprise TEPCO se présente alors devant la presse pour rassurer une fois de plus sur les conséquences de cette solution.
Les courants océaniques vont disperser les particules radioactives qui seront donc très diluées lorsqu'elles entreront dans la chaîne alimentaire des poissons. Ou bien, elles seront absorbées d'ici là par les algues.
Oui, sauf que quelques jours plus tard, l'information sort. Au large de la centrale, à 300 mètres des côtes, des prélèvements montrent que les taux de contamination sont 1200 fois plus élevés que la normale. Un exemple supplémentaire de la responsabilité de l'entreprise TEPCO dans la gestion de cette crise et de son irresponsabilité. Erreur de chiffres, en effet, des annonces, amateurisme, la collusion entre le gouvernement et la firme est largement pointée du doigt. Les effets de la catastrophe de Fukushima s'accumulent à mesure que les semaines et les mois passent. Des aliments en provenance de la région sont interdits, les premières cartes des rejets radioactifs et de leur niveau sont publiées. Les chiffres font froid dans le dos. La catastrophe de Fukushima est bientôt classée par l'Agence de sûreté nucléaire au niveau 7, autrement dit le plus élevé à l'échelle internationale, le même que celui de Tchernobyl. Le 11 avril 2011, le Premier ministre donne un nom à la tragédie du 11 mars, le grand séisme du Japon oriental. On dénombrera finalement 16 000 morts, 3 500 disparus et 6 000 blessés. 92% des victimes sont dues au tsunami. Mais qu'en est-il de celle de Fukushima? Quelles seront les conséquences sur l'environnement et sur les hommes de cet accident nucléaire, cet ennemi impalpable qui ne dit pas ses morts? Pour les compter, il faut attendre. Le démantèlement de la centrale de Fukushima continue, il devrait être achevé dans 40 ans. En septembre dernier, le nouveau Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a annoncé son intention de relancer 2 réacteurs. Depuis Fukushima, les centrales n'avaient pas été réactivées. Mais sur son chemin, le dirigeant japonais trouvera de nombreuses associations et militants antinucléaires remobilisés après le drame de Fukushima contre cette industrie sournoise dont les dangers sont sans odeur, ni couleur, ni repère dans le temps. Nous en savons quelque chose, nous les Français, citoyens d'un pays qui a décidé de se lancer à corps perdu dans l'atome, constituant un panier énergétique totalement déséquilibré en faveur du nucléaire. En termes de densité de centrales, nous sommes les champions du monde. Pas un Français n'échappe au maillage. L'immense majorité d'entre nous vit à 100 km d'une centrale, rarement plus. Sensible aujourd'hui, la catastrophe de Fukushima. Notre invité Jean-Louis Etienne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des pôles, bien sûr, du réchauffement climatique, évidemment, mais aussi du nucléaire, puisque c'est le sujet de notre émission. Et c'est aussi c'est un sujet de préoccupation pour vous qui défendez la nature, le nucléaire.
C'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet qui est hautement technologique, hautement sensible auprès des populations. Et c'est une énergie puissante, avec des gisements énormes, non carbonés. Donc on ne peut pas balayer, si vous voulez, la production d'énergie nucléaire comme ça, parce qu'elle est celle qui est installée pour un moment. Mais enfin, j'en parlerai du nucléaire, parce que c'est quelque chose dont on va pas pouvoir se passer temporairement. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les générations 2. Hein, ce sont des générateurs qui ont été conçus il y a 50-60 ans. Pensez aux moteurs des voitures que nous avions à 60 ans, qui consommaient 25 litres au 5, etc. Vous voyez, donc la technologie a fait des progrès. La génération qui arrive, c'est la 3, les EPR, qui n'ont pas encore fait leur démonstration. Ce qui est intéressant, c'est de poursuivre la recherche sur la génération 4 et le projet ITER.
Alors, on va y revenir, qui est installé à Cadarache, hein, et c'est un projet international.
Projet,
qui consiste de passer de la fission nucléaire à la fusion nucléaire.
ITER, ça consiste à recréer un soleil sur Terre.
C'est ça. Par la fusion.
Par la fusion des noyaux légers, c'est ce qui se passe dans le soleil. Le problème, si vous voulez, c'est que dans le soleil, c'est des centaines de millions de degrés, et ça va faire pareil. Et donc, dans quoi peut-on faire cette réaction avec des centaines de millions de degrés? Alors c'est prodigieux, ça va se faire dans un champ magnétique, donc ça va pas toucher les bords, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe, mais c'est très prometteur.
Alors on va revenir sur tout cela. Repartons au Japon avec cette catastrophe de Fukushima. Ce qui frappe d'entrée dans cette histoire, c'est qu'il y avait déjà eu une alerte en 2007 à Kashiwazaki. Et puis les Japonais ont dit, mais non, notre technologie est sûre. Ce que disent les Français encore, parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe, évidemment. Et puis est arrivé Fukushima. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, quand vous avez appris la catastrophe de Fukushima, dans ce pays qui était et qui est encore technologiquement beaucoup plus avancé que ne l'était l'URSS? Parce que Tchernobyl, on se disait, bon, ce sont des vieilles mécaniques, mais le Japon, c'est la France, c'est pareil.
Les choses se sont passées en deux temps.
Oui.
D'une part, ces images monstrueuses du tsunami, monstrueux. Ça veut dire qu'au fond de l'océan, ils sont sur une zone sismique importante, quoi. Au fond de l'océan, il y a dû avoir un effondrement qui a créé cet appel de mer et puis ce renvoi prodigieux. Et donc, on assistait à des images où on voyait des camions se faire transporter, un village qui était rasé. Donc, on était devant ces images-là de tsunami. Et deuxièmement, on voit qu'au fond, dans le village, là, la centrale nucléaire commence à être touchée. Et ça, c'est en deuxième temps avec ces images d'explosion. Donc ça, c'était vraiment des images de fin du monde. Et c'est surprenant, effectivement, on peut dire a posteriori. C'est surprenant d'avoir construit cette centrale-là. Mais le Japon, tout entier, est sur une zone sismique. Et le Japon a toujours essayé d'être indépendant énergétiquement, sans dépendre effectivement des énergies carbonées.
Est-ce que pour vous c'est une impéritie d'avoir construit tant de centrales nucléaires sur un territoire comme le Japon qui est quasi entièrement sismique?
Oui, mais on pourrait dire pourquoi ils vivent là, si vous voulez, parce que tout est sismique, donc ils ont tout prévu. Tokyo, enfin, on voit régulièrement des images de gens qui travaillent dans des immeubles et tout d'un coup on voit que ça bouge, ils y sont un peu habitués, ils ont des plans qui sont faits d'évacuation. C'est pareil un peu en Californie. Et d'ailleurs, en Californie, il y a aussi une centrale. Elle vient d'être fermée, mais il y avait une centrale à proximité.
De la faille de Saint-Andréas, c'est
ça? De la faille Saint-Andréas, oui. Donc, il y a des ingénieurs qui ont estimé, il y a quelques décennies, que c'était sûr. Mais effectivement, ça, c'est chercher la complexité de se mettre sur des failles sismiques.
Le nucléaire, alors certains veulent s'en passer, on a tendance, pourrait dire, facile à dire, hein. Les lobbies sont importants, au Japon notamment le lobby nucléaire, qui est aussi un lobby d'argent, hein, est très important. Donc comment faire quand une puissance industrielle est aussi quasiment une puissance économique et politique dans un pays, dès lors que le lobby est fort?
Il y a trois niveaux d'énergie en fonction de leur densité, hein. Il y a les énergies renouvelables, qui sont à la base de ce qu'on sait, soleil, vent. Mais si vous regardez, tout est soleil. Il y a géothermie, et le reste, c'est du soleil. Le vent, c'est du soleil. Remplir les barrages par évaporation de l'eau de mer, c'est du soleil. Les éoliennes, c'est des différences de température qui créent anticyclone, cyclone. C'est du soleil. Même les usines marémotrices, c'est la lune et le soleil qui jouent, si vous voulez, ça déplace des masses d'eau. Donc, quasiment, à part la géothermie, tout est soleil. Ça, c'est des énergies inépuisables, gratuites, sauf l'exploitation,
bien sûr,
mais la ressource est gratuite. Leur intensité est faible, donc il faut multiplier énormément les capteurs. Vous avez au centre des énergies beaucoup plus denses, qui sont les énergies fossiles, qui ont une densité importante. Si vous voulez, on connaît le gaz, le pétrole et le charbon, celles qu'on exploite aujourd'hui au maximum pour le développement industriel du monde. Elles ont une densité énergétique conséquente avec le grave inconvénient du réchauffement climatique. Et puis à l'autre bout, vous avez E égale MC2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse de la matière. C, c'est la vitesse de la lumière. Quand vous faites une fusion de noyaux légers, comme il se passe dans le Soleil,
quand vous faites une fission de noyaux lourds,
l'uranium par exemple, vous avez une production d'énergie qui est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. Quand Einstein a trouvé ça, il a eu une frayeur, il avait raison, il s'est dit on va faire une bombe avec ça. C'est mal né le nucléaire, si vous voulez, avec ces deux bombes qui ont existé. Au Japon.
Hiroshima, Nagasaki.
Et Nagasaki, voilà. Donc, si vous voulez, le nucléaire se trouve dans une situation d'être extrêmement mal né. En plus, le nucléaire civil aujourd'hui produit, que l'on sait, des déchets nucléaires à très longue vie. Et puis on a toujours ces craintes, Fukushima est l'exemple, d'un accident nucléaire. Donc la question c'est, les énergies renouvelables vont-elles dans le futur pouvoir couvrir tous nos besoins énergétiques? C'est ça la question. Si on fait la somme de toutes ces énergies-là, il y a de quoi. Mais il faudrait multiplier le nombre des capteurs et surtout avoir des performances de stockage de ces énergies renouvelables, d'électricité produite, que l'on ne voit pas venir, si vous voulez. Et au milieu, vous avez cette énergie de stock, fossile, charbon, gaz, pétrole, qui va finir un jour par s'épuiser.
Oui.
Et il faudra passer des énergies de stock à des énergies de flux. Flux léger des renouvelables et peut-être grand flux nucléaire, mais nucléaire du futur. Je ne parle pas des générations 2 et 3. Je parle de la génération 4, qui sont des digesteurs, qui vont pouvoir redigérer les déchets nucléaires que nous avons.
Ah, on va y arriver.
Bah, et oui. Surtout ITER, qui est magnifique. ITER, c'était cette idée merveilleuse. Quand je dis que tout est soleil dans les renouvelables, avoir l'idée de refaire un soleil sur Terre, c'est pas idiot.
Voilà. Et alors, on rappelle que ITER, donc, basé à Cadarache, dans le sud-est de la France, aux confins du Var et des Bouches-du-Rhône, a été une grande bataille pour savoir où on allait l'installer, oui. Parce que c'est international, c'est international. Les puissances nucléaires se mettent ensemble pour arriver à cette technique dite de la fusion, qui donnerait ce soleil artificiel et qui serait pour vous donc la solution. C'est intéressant.
Mais c'est une solution parce que on ferait la fusion des noyaux légers d'hydrogène et de ces isotopes. C'est inépuisable, si vous voulez, quoi. Et ça ne provoque pas de déchets, on peut dire, consistants. Et c'est à Cadarache, vous le soulignez, c'était Claudie Agnoret, qui était ministre de la Recherche à ce moment-là, qui avait négocié cette installation.
C'est une sacrée bataille.
Et c'est planétaire. J'ai été visiter tous les pays parce qu'en fait, alors, les détracteurs disent que c'est cher. On parle déjà de 15 milliards, voilà. Mais 15 milliards.
Il y a plusieurs contributeurs, il n'y a pas que la France, puisque c'est international.
Attendez, mais 15 milliards, c'est le prix des Jeux Olympiques de Londres. Et c'est la moitié des Jeux Olympiques de Sochi. Et on parle quand même de la recherche de l'énergie à l'échelle planétaire. Sachant qu'on va être 10 milliards en 2050, que 75% de la population sera concentrée dans les mégapoles. Comment est-ce qu'on va alimenter tout ça? Sachant qu'on va avoir des besoins d'eau, il va falloir dessaler l'eau de mer. Ça consomme beaucoup. S'il fera chaud, des canicules qui arrivent, on va pas se passer de climatiseurs. On va vers une société qui réfléchit à l'économie d'énergie, mais en même temps, dont la population et les besoins croissants font que il y a une grosse interrogation sur est-ce que les renouvelables pourront produire 100% de nos besoins.
Bien, alors. Ça, c'est le futur. On va quand même parler du présent et du futur proche. Qu'est-ce qu'on en fait de nos centrales nucléaires? Je rappelle que la France, si on établit un ratio entre le nombre d'installations nucléaires et le territoire, la France est le pays le plus nucléarisé au monde.
Au monde.
On rappelle, on l'a dit dans le récit d'ailleurs, qu'un Français ne peut pas habiter plus de 120-130 km plus loin qu'une centrale.
Donc,
on est totalement maillé. Il y a un maillage du terrain qui est impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, sachant qu'il y a le problème des déchets et qu'on s'est lancé dans une industrie sans penser à la gestion des déchets générés par cette industrie-là. Donc ça fait beaucoup de
beaucoup de choses.
On commence par
un lourd héritage.
Un lourd héritage. On va commencer par les centrales nucléaires, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ces centrales qui sont vieilles maintenant. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de répondre, Jean-Louis Etienne, on va écouter une archive là-dessus, d'accord? Et puis après on va la commenter. C'est le président Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy au moment où il était président, qui est en visite à EDF quelques semaines après la catastrophe de Fukushima.
Je veux que les choses soient claires. Face au manque de sang-froid de tant d'observateurs qui, ne connaissant rien au nucléaire, font des amalgames et disent des choses qui ne sont pas respectueuses du travail de nos ingénieurs et de nos techniciens. En tant que chef de l'État, j'ai confiance dans la sécurité du parc nucléaire français. Je veux préciser les choses devant vous. Continuer dans le nucléaire, faire confiance au nucléaire, c'est continuer à investir dans le nucléaire. Soit on croit dans le nucléaire et dans sa sûreté, et dans ce cas-là, on continue à investir dans le nucléaire, soit on ne croit pas dans le nucléaire, et dans ce cas-là, on arrête le nucléaire et on ferme le nucléaire. Mais dire, on fait le moratoire, on garde nos 58 centrales, on bouge pas et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, c'est le choix du passé, c'est le choix du Moyen-Âge. Et il faudrait que, parce qu'il y a eu un tsunami au Japon, on remette en cause ce qui fait la force de la France. Ce serait un choix irréfléchi et déraisonnable.
Voilà, donc prise de position ouvertement favorable de Nicolas Sarkozy au nucléaire, favorable au nucléaire. N'empêche que nos centrales, elles sont vieilles. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous ?
C'est une vieille conception. Ça ne veut pas dire qu'elles sont usées. C'est une conception ancienne, une conception d'il y a 60-70 ans. Je fais toujours le rapprochement avec les moteurs d'explosion de nos voitures qui consommaient 25 litres au 100, vous voyez, à cette époque-là. Elles ont quelques décennies devant elles. Ça va finir. Parce que elles vont entrer dans une situation où elles vont être en bout de course et la sécurité donnera elle-même les décisions de les fermer. Mais ce que soulève le président Sarkozy, c'est une vraie question. 7 prises sur 10 à la maison sont alimentées par une centrale nucléaire.
Oui, 75% de notre électricité produite par le nucléaire.
Ça fait 7 prises sur 10.
C'est ça.
Vous voyez, supprimer 7 prises à la maison, il en reste moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est obligé de parler d'une transition. Et la transition va être coûteuse, elle va être lourde, elle va prendre du temps. Donc on a mis en mi-chemin entre le nucléaire futur, on a mis à mi-chemin entre la génération 2 actuelle, c'est la génération 3, c'est les EPR, qui ne marchent pas encore, vous voyez. Mais cette interrogation permanente, comment va-t-on passer de cette énergie massive à l'exclusivité des énergies renouvelables ? Parce qu'au milieu, il va quand même falloir s'occuper du climat.
Mais oui.
Vous voyez, le charbon est le pire ennemi du climat et c'est ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Pour nous, Français, le charbon, c'est Renault qui chante les corons, c'est Émile Zola, c'est les musées de la mine dans le Nord. Il y en a deux encore, centrales au charbon, qui tournent en France. Mais le monde marche au charbon. La Chine marche au charbon. L'Inde marche au charbon. C'est intéressant, il y a la COP24 qui se passe en Pologne. 94% de l'électricité polonaise est faite au charbon.
Oui,
je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ouais. Et je rajoute, les Allemands qui ont décidé politiquement de sortir du nucléaire sont repassés au charbon. Ils achètent le charbon aux États-Unis parce que les États-Unis sont passés au gaz de schiste et ils ont repris l'exploitation de leur mine du lignite qui est quand même une saloperie. Donc, vous voyez ce que je veux dire.
En même temps, les Allemands ont développé le solaire et l'éolien.
Les Allemands ont une acceptation que nous n'avons pas.
Quelle acceptation ?
Aujourd'hui, on parle de mettre des éoliennes en mer. C'est une bonne solution. On arrive aujourd'hui à faire des éoliennes de 8 mégawatts. C'est des gros moulins. Et il faut les mettre là où il y a du vent. Le vent, il est constant et il y en a au large.
Oui.
Bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour savoir où est-ce qu'on va les mettre. Donc ça fait 10 ans que ça va d'un projet à une concertation, puis à un autre projet. On avait projeté de faire des usines de création de pales, de tout ça. On a été racheté. On n'est plus dans ce marché-là, si vous voulez. Donc on a un problème d'acceptation en France de ces énergies renouvelables. Moi, j'ai survolé l'Allemagne en ballon en préparant une expédition. C'est café d'éoliennes. Alors, moi, j'en ai 6 chez moi, dont j'ai donné l'autorisation. J'ai 80 panneaux solaires sur mon toit. Je sais ce que ça veut dire. On vit très bien avec, mais il faut choisir.
Vous avez chez vous, c'est intéressant, vous avez un panier énergétique mixte.
Alors, les 6 éoliennes, elles sont pas à moi, elles sont à la commune. Mais je me souviens, la maire de la commune est venue me voir. J'étais la grosse carpe du département du Tarn et on craignait une chose, c'est que avec cette image d'écolo, j'interdise l'installation de ces 6 éoliennes.
Horreur, retour à la bougie.
Et donc la maire que je connaissais me dit, tu sais, ça me financer la moitié de la voirie, et c'est important et puis ça nous permet de... Je dis, mais vas-y, c'est 800 mètres de chez moi. Sincèrement, c'est pas le bruit que ça fait qui me dérange. Et sur le toit, j'ai 80 panneaux solaires. Je suis producteur d'électricité que je revends à l'EDF. Donc, je sais ce que c'est. J'ai fait des expéditions où la préciosité de l'énergie, on la ressent. C'est précieux, l'énergie. On ne se rend pas compte de la quantité qu'on consomme. On s'en rend compte quand, tempête de neige dans les Pyrénées, un village de la fond de la vallée est privé d'électricité. Ils font l'ouverture du journal télévisé. Vous voyez, problème, on ne va pas alimenter les stations, les réservoirs d'essence parce qu'il y a une grève de machin. Marcel va vite faire le plein, on n'aura pas l'essence pour dimanche. On a une dépendance à l'énergie que l'on ignore, que l'on sous-estime.
Alors, Jean-Louis Etienne, je dirais que juste qu'on termine sur le chapitre nucléaire, je vois qu'il vous inspire, qu'il est intéressant, avec les déchets, tout de même, est-ce que c'est pas le plus grand problème que d'avoir inventé, de s'être lancé dans une industrie qui générait des déchets, et on savait que ça allait faire des déchets, et on sait plus quoi en faire, puisqu'on attend que le site d'enfouissement en couche géologique profonde à Bure soit opérationnel, et entre-temps, ils vont où les déchets? Qu'est-ce qu'on en fait?
Ils sont stockés pour le moment. Si vous voulez, c'est l'héritage du général de Gaulle, il voulait qu'on soit une puissance nucléaire formidable.
Non, c'est clair,
oui. Bon, et puis on a investi sur le nucléaire militaire, et puis on s'est dit pourquoi pas faire l'électricité avec, et on a multiplié. D'ailleurs, pas mal de génératrices ont été achetées aux États-Unis, elles ne viennent pas toutes de l'industrie française, et il y a ces déchets. On peut pas fermer les yeux devant ces déchets. Donc il y a des solutions qui sont proposées, de les ensevelir profondément. Pourquoi pas? Sinon, les mettre où? Personne n'a la solution magnifique. Mais on a confié à des ingénieurs auxquels il faut faire confiance, parce que qu'est-ce qu'on en fait, vous voyez? Il y a ce déchet, il nous gêne, et c'est vrai, mais il y a un autre déchet qui nous gêne beaucoup, et dont on va parler, c'est le gaz carbonique. C'est un déchet dont on ne sait pas quoi faire. C'est un déchet de combustion, le gaz carbonique, et qu'on ne sait pas recycler du tout. C'est exactement comme les déchets nucléaires, ce sont les déchets de la production énergétique.
Jean-Louis Etienne, le 16 janvier prochain, vous sortirez un autre livre écrit de votre main, ça s'appelle Pôle Nord, Pôle Sud, hein, c'est bien ça. Le récit du premier homme qui a atteint le pôle Nord à pied, parce que vous connaissez l'exploit, ça nous fait rêver. Mais au-delà du rêve, il y a une préoccupation qui est là, bien palpable, celle du changement climatique. Mmh. On le sait vraiment par les pôles qu'on peut mieux le mesurer, c'est un vrai marqueur important.
Oui, le réchauffement, c'est quand ça se réchauffe, c'est la glace qui trinque. Hein, ouais. C'est un premier, quoi. Donc effectivement, c'est le pôle Nord et le pôle Sud qui sont affectés. Le pôle Nord est au milieu d'un océan recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise. Et tous les ans, on voit que la banquise diminue de surface, elle diminue d'épaisseur. Et ce froid va nous manquer. On a ouvert la porte du frigo là-haut. Mmh. Et ensuite, en Antarctique, c'est un grand continent couvert de glace. Et on s'aperçoit, avec le réchauffement, si vous voulez, qu'il y a une érosion de la croûte de glace qui est autour, de la calotte de glace, et donc ça produit davantage d'icebergs qui vont alimenter en eau l'océan, dont le niveau monte. Sans aller si loin, vous allez à Chamonix, la mer de glace est en régression extraordinaire, la régression de la mer de glace. Donc le réchauffement climatique est une évidence.
Alors justement, Comment se fait-il, puisque c'est une évidence, qu'il y ait ce mouvement qu'on appelle les climato-sceptiques, mais c'est quasiment des négationnistes du climat, puisqu'on leur apporte les preuves.
Oui.
Comment peuvent-ils, qu'ils continuent à parler, évidemment, et heureusement nous sommes en démocratie, il n'y a pas d'élite d'opinion, heureusement. Mais enfin, sur quelle base, quoi, puisqu'ils n'ont pas, eux, ils n'ont pas les preuves. Vous les avez.
Le réchauffement climatique n'est pas un sujet de discussion. C'est une mesure scientifique. Je vous explique. La température moyenne de la Terre, à la surface de la Terre, s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. C'est ça le réchauffement climatique. 1 degré en un siècle. Ça nous paraît dérisoire, mais à l'échelle de la planète, c'est une absorption de chaleur colossale. À l'opposé, deux personnes le matin vont acheter la baguette de pain. Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? Les deux mamelles de la conversation. La santé et le temps qu'il fait.
Oui.
Si c'est au mois de mai qu'il fait froid, ils vont dire, qu'est-ce que t'en penses, toi, Marcel? Ça se réchauffe, tu crois? Regarde comme il fait froid. Marcel, il va dire, oui, t'as raison, le réchauffement climatique, c'est une histoire. On parle du temps qu'il fait. Le réchauffement climatique, c'est une élévation de la température moyenne de 1 degré à la surface de la Terre. Quand Trump raconte qu'il fait très froid à New York et il va faire satisfaire très très froid à New York et à Montréal, il dit, il nous raconte des conneries, regardez comme il fait froid. Il oublie de dire qu'au même moment, de l'autre côté, en Afrique du Sud et en Australie, il y a des sécheresses énormes, il y a des canicules qui sont destructives. C'est la valeur moyenne de la surface. Ce n'est pas perceptible. Donc, on a perdu du temps. Alors, les politiques disaient, moi je ne dis pas réchauffement climatique comme si c'était pas bien, vous voyez, on parle de changement climatique. Non, c'est le réchauffement climatique.
Oui, vous avez
raison. Moyen.
J'ai dit changement climatique, deux claques. C'est
deux claques.
Réchauffement.
C'est le réchauffement qui est responsable du changement qui arrive.
Bien. Et on finira avec cette phrase. Ça sera le mot de la fin comme une morale. Ne parlez plus de changement climatique, mais de réchauffement. Voilà.
Absolument.
Merci.
C'est une réalité.
Merci. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe de Fukushima, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.